résidence privée par le père Philippe, Saint-Joseph, le 16 janvier 85.
J'ai reçu ce matin de Notre-Dame de Lérins la lettre du Père Abbé. Au Père Marie-Dominique Philippe, Louis-Marie, Philippe-Marie, et à tous les pères et frères de la communauté de Saint-Jodard. Alors, je crois qu'il faut la lire tout de suite, puisqu'elle est arrivée ce matin. C'est, vous savez ce que le Père Abbé aime de dire, sa carte de visite. Alors, je vous la lis, et puis on verra s'il y a quelques petits points commentés de façon plus particulière. À la suite de bien des circonstances imprévues, je suis venu finalement seulement maintenant pour accomplir cette visite fraternelle. Avec joie, je fais la connaissance de la maison Saint-Joseph. Je retrouve des visages connus et fais la connaissance de tous ceux qui sont entrés à Saint-Jean depuis un an. Je remercie le Seigneur de toute la confiance dont vous m'avez témoigné en ces jours, ainsi que de tout ce que j'ai vu et entendu. Cette carte de visite est le résultat des dialogues personnels que nous avons eus. Voici donc les points essentiels qui s'en dégagent et sur lesquels je voudrais attirer votre attention. L'exigence de la vie à la suite de Jésus. L'importance de la formation. Quelques points essentiels de votre vie. Donc, la vie à la suite de Jésus. Un jour, vous avez entendu le Christ frappant à la porte de votre cœur. Ce choix de la communauté Saint-Jean, cette réponse au Seigneur, sont avant tout une ascèse selon l'Évangile, afin d'imiter et de suivre le Christ de plus près. La vocation est un regard particulier de Jésus sur vous, un appel personnel, un choix gratuit, sans aucun mérite de votre part. En même temps, elle est une exigence, une perte de soi, de sa propre vie, non pour un temps, mais pour toute votre vie, par amour du Christ. Jésus, parlant à ses disciples, leur dit: qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et au jeune homme riche, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. Et cette autre parole: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Être chrétien, être religieux, est avant tout un état de conversion continue. La règle des moines, la règle de saint Benoît, nous dit que Benoît fonde une école au service du Seigneur. Il exhorte ses frères à revenir à Dieu par le travail de l'obéissance dont les avait éloignés la désobéissance. Il veut montrer par là que tant le péché d'Adam que nos propres péchés nous ont détournés de Dieu, même si par le baptême nous avons reçu la grâce. Nous portons encore en nous des tendances qui nécessitent de s'engager pour toute notre vie dans un combat. Par le baptême, nous avons revêtu l'homme nouveau, le Christ Seigneur. C'est une renaissance qui nous redonne la lumière que nous avions perdue, la force qui nous unit intimement à la personne de Jésus. Dans son évangile, Jésus nous a montré à quelle unité intime Il veut nous conduire avec lui. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En Jésus, ainsi, nous partageons l'amour du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Votre vocation est de partager cette vie divine. Votre consécration religieuse dans la communauté Saint-Jean accentue encore cet appel à un partage entier, sans compromis avec le Seigneur. Cet amour est celui de Dieu et du prochain. Personne ne peut aimer Dieu s'il n'aime pas son frère. Et celui qui aime son frère en vérité aime aussi Dieu. Cette dimension de la charité dans votre communauté doit être empreinte d'une grande simplicité évangélique et d'une grande limpidité. Faite d'une confiance mutuelle, d'aucun jugement sur les apparences. Confère règle de vie. Deuxièmement, la formation. Toute vie humaine doit reposer sur une formation solide. À plus forte raison quand il s'agit de former une personnalité humaine et religieuse. Je ne parle pas ici de la formation intellectuelle que vous recevez et que j'approuve entièrement, vous le savez. Je veux vous entretenir de la formation humaine globale, donc plus éthique, vous voyez bien. Les vertus. Je veux vous entretenir de la formation humaine globale, de cet être humain appelé à se laisser de plus en plus saisir par Dieu. L'enfant va à l'école pour développer son intelligence, l'artisan se perfectionne dans son art, et ainsi pour toute situation et tout âge dans la société des hommes. Dans votre vocation d'enfant de Dieu, au service de l'Église et des hommes, vous avez une aventure toute particulière. Laissez l'Esprit Saint devenir votre maître en vous unifiant en tout, en vous unifiant en tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit, et vous divinisant par sa grâce et les sacrements. C'est un travail jamais terminé. Toujours à reprendre jusqu'au terme de votre vie. Cette formation a pour but la personne tout entière, la rendant adulte et apte à servir le Seigneur. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour que chaque frère s'épanouisse en Dieu selon les charismes et qualités que le Seigneur lui a donné et lui donne. C'est l'action de l'Esprit du Christ qui fera de vous les religieux dont l'Église a besoin et qui vous permettra de réaliser ce que vos supérieurs ou les évêques vous demanderont. Troisième point, quelques points essentiels de votre vie. L'humilité est absolument nécessaire pour vivre selon l'Évangile. Être saisi par la sainteté de Dieu et sa toute-puissance pour bien établir en vous la conviction que dans le Christ vous ne pouvez rien, que sans le Christ vous ne pouvez rien faire. L'humilité vous préservera de tout orgueil, surtout celui de l'intelligence. Pour parvenir à cette véritable humilité du cœur, il ne suffit pas de la proclamer, mais bien de la laisser imprégner toute la vie, notamment dans l'acceptation des épreuves inattendues. La vraie dépendance conduit à l'humilité. L'obéissance naît de l'humilité. elle n'est pas évidente et bien souvent entraîne de véritables combats intérieurs. Il ne suffit pas d'accomplir le commandement reçu, mais aussi de renoncer à sa volonté propre en communiant à celle de celui qui vous commande. Vous trouverez les forces pour vivre cela dans le Christ qui fait la volonté du Père. Votre obéissance ne doit pas être infantile, ni reposer sur une démission de soi ou un manque de caractère. Elle doit être intelligente et éclairée, et cela dans une docilité continuelle à l'Esprit Saint. Enfin, c'est dans la transparence à son supérieur qu'elle trouve tout son dynamisme. Le royaume des cieux est à ceux qui ont une âme de pauvre. Le pauvre n'a rien, n'a aucun droit. Dans la communauté, les frères ont tout en commun et chacun reçoit ce dont il a besoin. Vous trouverez un chemin de liberté pour votre cœur dans cette pauvreté vécue avec radicalité. La joie de l'abandon plein d'amour dans les mains du Seigneur, exige un engagement vrai dans la pauvreté. Votre vocation de frère de Saint-Jean est au cœur de l'Église universelle. L'enracinement monastique que vous vivez, la prière, l'apostolat, tout cela vous fait participer pleinement à la vie de l'épouse du Christ. Tout cela doit vous stimuler à plus de zèle et de ferveur, à ne jamais vous estimer satisfait de vous-même, à aimer le service d'Église qui vous est confié, et à travers ce service, à aimer l'Église, votre mère. Toute vie contemplative implique une disposition du cœur à aimer se retrouver au secret, dans le silence du cœur. Ce sera la plupart du temps votre seule clôture, votre seule solitude. Veillez-y, tant pour vous que pour vos frères. Respecter le silence d'un frère, est un acte de charité très grand. Que la Vierge Marie vous accompagne tout au long de votre vie, de votre vie religieuse, elle qui a su vous appeler à servir son Fils et l'Église, qu'elle vous apprenne à être toujours plus fidèle à la volonté de son Fils, à être des passionnés du Christ, à vivre pour lui seul. Croyez en ma profonde affection paternelle pour toute votre communauté, et en ma prière fidèle. Cette carte sera lue deux fois par an après les fêtes de Pâques et de la Toussaint. Frère Marie-Bernard de Théris, abbé de Lérins. Vous vous souvenez, quand le père abbé avait fait sa visite, il avait dit les quelques points essentiels, il les reprend ici. Et quand je l'avais vu, il avait beaucoup insisté sur l'aspect de la formation, en disant « je n'ai pas peur pour la formation intellectuelle, mais je crois qu'on doit faire un effort pour la formation proprement humaine ». C'est évident que c'est une des choses les plus difficiles, parce que c'est quelque chose de toute la vie, mais il y a un temps privilégié au noviciat, un temps privilégié pendant les années d'études. Donc Le noviciat est sûrement le temps privilégié, mais un temps privilégié qui n'est pas commode du tout à bien voir, parce que l'Esprit Saint est quand même directeur et rector, hein, les expressions de saint Thomas. L'Esprit Saint, surtout au noviciat. Après, l'Esprit Saint, quelquefois, est un peu plus au chômage. Hein, parce que très très vite, on reprend son auto-éducation. Et quand on prend son auto-éducation, on le sait bien, à ce moment-là, très facilement, on n'écoute plus beaucoup le Saint-Esprit. Ça, c'est une constatation. Normalement, la profession devrait être un enracinement dans une docilité plus grande à l'Esprit Saint, et quelquefois on a l'impression que, ouf, le noviciat est terminé, maintenant on peut s'installer. Alors, c'est évidemment terrible. Un religieux ne s'installe jamais. Je vous ai dit, il doit être novice du Saint-Esprit. Et donc, il ne doit pas s'installer. Il doit entrer de plus en plus dans cette formation divine qui implique une formation humaine. Mais, à la différence des autres formations, celles que vous avez reçues en famille, quand vous étiez tout petit, ça ne dure pas très longtemps, la formation en famille, hein, jusque 14 ans, dans les meilleurs cas, et dans les meilleures familles, c'est-à-dire les familles profondément chrétiennes. La formation du noviciat n'est pas la formation de la famille, semblable à celle de la famille. C'est une formation divine en premier lieu. C'est bien ce que le Père Abbé rappelle. Et ça, je crois que c'est très très important de bien se le dire. C'est une formation divine en premier lieu. Alors, la formation divine en premier lieu, c'est quoi? C'est l'oraison. La fidélité à l'oraison. Coûte que coûte, c'est premier. On va dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire oraison le matin, il y a du travail, tant pis, je ne ferai pas oraison. Très mauvais raisonnement. Si vous n'avez pas pu vous lever le matin parce que vous étiez trop fatigué, vous aviez une dispense, ou bien parce que votre réveil n'a pas sonné, ou parce que vous avez eu un geste primo primi, n'est-ce pas, qui, le réveil sonnant, vous étiez encore trop, pas encore assez réveillé sous la motion de l'Esprit Saint, vous avez commencé à vous rendormir. Et ce second sommeil est toujours plus lourd que le premier, parce qu'il n'est pas très limpide, alors il est particulièrement lourd. Et alors, si vous n'avez pas fait oraison avec les frères, reprenez en premier lieu ce temps de l'oraison. C'est capital. Vous êtes fidèle à l'oraison. Le noviciat doit nous apprendre une fidélité à l'oraison. Mais vous comprenez très bien que ce n'est pas suffisant. 20 mois de noviciat pour être fidèle à l'oraison. Il faut continuer. Et il y a cette nécessité de continuer cette fidélité à l'oraison après. Et coûte que coûte, ça. Rien ne peut nous dispenser de la fidélité à l'oraison. Rien du tout. Même si vous dites je suis distrait, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance si la distraction est volontaire. Mais si la distraction n'est pas volontaire, et que vous luttez contre, et que vous en avez même par-dessus la tête, ça n'a pas d'importance. Le travail du Saint-Esprit est souterrain, un travail de taupe. Hein, faut pas l'oublier. Alors, c'est un travail de taupe, vous vous en apercevez que de temps en temps. Le Saint-Esprit travaille notre âme bien plus que nous ne pensons, et bien plus que nous en avons conscience, heureusement. Puisque nous l'avons tourné au baptême, et que nous le remettons tout en entrant dans la vie religieuse. Et dès que nous faisons profession, nous lui remettons tout. Et c'est sous-jacent à la profession de dire au Saint-Esprit que c'est lui qui nous dirige. Je rappelais aux novices l'exigence de l'obéissance qui est terminée, finalisée par la docilité au Saint-Esprit. Notre vœu d'obéissance, c'est pour être parfaitement docile au Saint-Esprit. C'est pour aller jusqu'au bout de la docilité au Saint-Esprit. C'est pour ne jamais donner un petit coup de chiquenaude sur les paupières de la colombe. C'est-à-dire ne jamais résister au Saint-Esprit. Il ne faut jamais résister au Saint-Esprit. Quand on ne sait pas très bien si c'est le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit, on demande conseil. Et puis il y a la règle, le règlement. Le Saint-Esprit ne va jamais contre le règlement. Quelqu'un qui dit « Je suis sous le souffle de l'Esprit Saint », le Saint-Esprit me demande juste l'inverse du règlement. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est curieux, mais c'est comme ça. Eh bien, vous pouvez être sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demande jamais d'aller contre le règlement. Il vous demande au contraire d'entrer pleinement avec une conscience toujours plus aiguë de votre pauvreté. Alors, c'est là où on touche, voyez, j'en disais un petit mot ce matin au noviciat, c'est là où on touche quelque chose de très important pour nous. C'est que, de fait, la grâce du noviciat est une grâce d'appauvrissement. Pas du tout d'enrichissement, d'appauvrissement. Et je dirais que même la grâce des études après, et tant qu'on est dans la période de formation, ce sont des grâces d'appauvrissement. Nous, on croit qu'on va accumuler des tas de choses. Pas du tout. Le Saint-Esprit nous apprend à être pauvres, parce qu'il est le père des pauvres, et qu'il veut faire de nous des pauvres. Et que c'est très difficile d'éduquer quelqu'un dans la pauvreté. Mais c'est une très grande grâce du Saint-Esprit, de nous éduquer dans la pauvreté. Alors d'enlever successivement des quantités de choses qui étaient des ornements pour nous permettre de faire la roue. C'est magnifique. Alors le Saint-Esprit enlève ça, tu sais, il enlève ça admirablement. Enfin, lentement, pour être plus sûr, parce que s'il faisait tout ça d'un coup, ça n'irait pas du tout. Mais il fait ça lentement, il enlève. On s'aperçoit qu'on vivait très superficiellement. Et le Saint-Esprit nous apprend à vivre dans l'intérieur. L'action de l'Esprit-Saint au noviciat est avant tout et en premier lieu de creuser en nous cette cellule intérieure, de creuser en nous cette filiation à l'égard de Jésus à travers Marie. Ça, c'est le rôle premier de l'Esprit-Saint. Et je dirais, ce rôle premier de l'Esprit-Saint dure toute notre vie. Veni, Pater, Popero. Et nous invoquons tout le temps le Saint-Esprit comme le Père des pauvres. Et nous lui demandons tout le temps d'être là pour nous appauvrir. Ça, je crois que c'est très très important de se le rappeler constamment. Et de l'accepter d'avance. Hein, d'accepter toutes les pauvretés d'avance. On ne peut jamais prévoir. On ne peut jamais prévoir d'avance. On a tous cette petite conception en disant « Oui, très bien, c'est ça qui m'enlevera au noviciat. » Et puis c'est jamais ce qu'on a prévu. C'est tout à fait autre chose. C'est extraordinaire de voir ça. C'est du reste magnifique. Parce que ça montre bien que c'est l'action de l'Esprit-Saint. Et que ce n'est pas du tout une action psychologique. Non, c'est l'action de l'Esprit-Saint. Il nous appauvrit au point où nous n'en avions plus besoin. Cette action divine de l'oraison et de la soif de contemplation. Parce que c'est bien ça qu'il faut se rappeler. L'oraison, c'est pour la contemplation. C'est-à-dire pour que notre amour à l'égard de Jésus s'intensifie. On pourrait dire que la contemplation est pour l'oraison aussi. Tout dépend comment on l'entend. Les grâces d'oraison sont des grâces cachées, des grâces de silence, des grâces d'amour. Les grâces de contemplation sont des grâces de plus grande lumière. Un regard. Les deux se tiennent étroitement. La contemplation est à l'intérieur de l'oraison et l'oraison enveloppe toujours notre contemplation. Cette formation première va impliquer une formation humaine. Et cette formation humaine, c'est nécessairement l'acquisition des vertus cardinales. Ce qu'on appelle les vertus cardinales. C'est les vertus essentielles et fondamentales. Et nous devons tout faire pour les acquérir. Parce que si on ne les acquiert pas pendant le noviciat, si on ne les acquiert pas au début, on ne les acquerra jamais. Alors on scandalise. Parce que c'est vrai, ça scandalise. Les gens voient toujours dans un moine, vous comprenez, quelqu'un qui doit être parfait. Et nous qui regardons de l'intérieur, on sait bien que ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui tend vers la perfection. C'est ça que Dieu nous demande, de tendre vers la perfection. Mais nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits. Il suffit de vivre 8 jours dans une communauté religieuse, et spécialement ici, n'est-ce pas, pour s'apercevoir qu'on n'est pas parfait. C'est bien évident. S'apercevoir que, oui, il y a une tension vers la perfection, et ça c'est beau, c'est magnifique, c'est très beau. C'est une école de perfection. C'est une école dans laquelle on tend vers la vertu. Mais le noviciat est fait d'une façon très particulière pour l'acquisition des vertus. Les vertus essentielles, acquérir la prudence. Vous allez dire, c'est impossible d'acquérir la prudence au noviciat puisqu'on obéit tout le temps. L'obéissance est un moyen merveilleux d'acquérir la prudence. Parce que, en obéissant, vous êtes obligé d'abdiquer votre petit jugement propre pour vous mettre plus haut et découvrir le jugement du supérieur qui va plus loin que le vôtre. Et ceci, c'est une acceptation que nous faisons au niveau prudentiel. Un des aspects essentiels de la prudence, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles dans notre jugement. Je crois que celui qui croit être infaillible dans son jugement, c'est l'art qui pénètre la prudence et qui fait qu'à ce moment-là, on ne voit plus du tout notre activité prudentielle. Vous savez la fameuse définition de saint Thomas pour l'art, hein ? Les voies déterminées. On a un projet, il y a des voies déterminées. Eh bien ça, c'est anti-prudentiel. C'est l'art. C'est très bien comme artiste, hein, quand il doit faire quelque chose, il doit avoir des voies déterminées. Et l'homme prudent, c'est celui qui justement doit constamment, en fonction des diversités de lieux, des diversités de moyens, des diversités de ceux qui sont autour de nous, des supérieurs. Il est là pour toujours essayer de s'adapter pleinement sans rien changer à sa finalité. Mais c'est le lien entre le conditionnement et la finalité. C'est ça la prudence, c'est d'arriver à une harmonie parfaite entre les deux. Et l'obéissance nous éduque vers cela, d'une façon étonnante. Vous savez, c'est le vieil adage. Hein, le vieil adage. Il faut avoir beaucoup obéi pour savoir commander. Hein. On dit toujours ça, on a toujours dit ça. Ça exprime quelque chose de très profond. Au premier abord, on dit, mais pourquoi? Parce que ça nous a humiliés, ça nous a... Non, c'est pas ça du tout, c'est une chose bien plus profonde. C'est que l'obéissance vous a appris la prudence. Et on commande par la prudence. C'est la prudence qui est absolument essentielle pour commander. Et c'est l'obéissance qui vous éduque de la manière la plus profonde vis-à-vis de la prudence. Quelqu'un qui sait obéir et qui obéit avec amour, qui obéit avec intelligence, qui obéit avec un désir justement d'être le plus possible dans l'obéissance et qui n'hésite pas de venir demander dans telle ou telle chose qu'est-ce que je dois faire pour être pleinement dans l'obéissance. Celui qui vit dans l'obéissance, il éduque sa prudence. Autrement, vous avez un petit projet de vie. Et alors à ce moment-là, vous n'éduquez pas du tout votre prudence. Vous éduquez votre capacité artistique d'édifier votre vie, de la tailler à votre manière et de l'orienter comme vous voulez. Mais ce n'est pas du tout point de vue de l'obéissance, ce n'est pas du tout point de vue de la prudence. C'est par l'obéissance qu'on acquiert la prudence. Ça, c'est capital. On ne peut pas être humain. C'est capital. On ne peut pas être humain sans la prudence. Toutes les vertus morales, éthiques, reposent sur la prudence. Alors, on comprend comment au noviciat, il faut acquérir progressivement les vertus. Vous avez tous les jours un travail, intellectuel, travail manuel, tous les jours. Le travail doit normalement développer en vous la vertu de force. C'est la vertu de force. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de travailler. Et il y a des gens qui, tous les jours, n'ont pas envie de travailler. Ça arrive. Ils aiment mieux aller se promener. Surtout avec le printemps qui va venir. Hein. Alors on aime bien aller se promener. Après l'hiver. L'hiver, quand il y a de la neige encore, on pourrait avoir envie d'aller se promener aussi. Ce serait quand même plus agréable, quelquefois, d'être gelé à sa table de travail. Non ? Si vous êtes gelé à votre table de travail, prenez toutes les couvertures possibles pour ne pas avoir froid, n'est-ce pas ? Mais vous luttez, et c'est bon. Il faut lutter. Le travail implique un acte de force, d'être éveillé, d'appliquer votre intelligence. Surtout quand on ne comprend pas grand-chose, il faut beaucoup de force. Quand on comprend très bien, il faut moins de force. Parce qu'on est dirigé par ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche nous porte. Et quand on comprend moins bien, quand on est dans un travail sur l'aïunit et qu'on ne voit rien, alors à ce moment-là, il faut beaucoup de force. Quand on est dans un travail métaphysique et qu'on a beaucoup de peine à comprendre quelque chose au début, il faut beaucoup de force. Travaille dans le brouillard. Alors, qu'on demande une méthode de travail, puisqu'il y a des parrainages, utilisez le plus que vous pouvez ceux qui sont là auprès de vous pour vous aider. Mais le travail va engendrer en nous la vertu de force. Tous les jours, vous devez faire quelques actes de force, consciemment, pour que la vertu de force pousse. C'est très important, la vertu de force. Au réfectoire, c'est la vertu de tempérance. C'est un exercice pratique de la vertu de tempérance. C'est pour ça que vous mangez le matin, le midi et le soir. Hein, et qu'on ne vous donne pas uniquement des procédés pharmaceutiques pour vous dire, voilà, on va le nourrir. Non, non, on vous donne une nourriture et vous devez exercer la tempérance. On ne mange pas comme des animaux. On mange comme des hommes, d'une façon humaine. Et donc, en mangeant d'une façon humaine, on mange pour pouvoir vivre, pour pouvoir prier, pour pouvoir travailler. On refait ses forces. Et chacun les refait en ayant la prudence prudence et la tempérance. Et c'est vrai, on ne doit pas regarder la manière dont le voisin se sert en disant « je vais me servir un peu plus ou un peu moins pour montrer que je suis très tempérant ». Non, la vertu de tempérance est la vertu la plus subjective qui soit. Dites-vous bien ça. Donc c'est là où vous trompez le plus au point de vue des apparences, quand vous louchez sur l'assiette du voisin. D'une façon générale, il ne faut jamais loucher sur l'assiette du voisin. Parce que c'est très désagréable pour lui. Il a envie de dire « Ah, voilà !» Regardez bien. Non, non, c'est une discrétion, vous voyez, qu'on doit avoir. Et ça fait partie de la vertu de tempérance, d'une certaine manière. Que on soit simple, mais qu'on soit discret. Surtout quand on est un peu serré les uns sur les autres. Et surtout quand on a des vis-à-vis, n'est-ce pas, qui vous plongent dessus. On est plus petit, puis un grand. Donc, dès qu'on le regarde, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Il nous regarde tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Et on ne peut pas lui rendre l'appareil, parce qu'elle est plus petite, alors on devrait se mettre dans une situation impossible, ce serait un peu... c'est pas la peine. Alors on doit être discret. Et on doit être tempérant. Il faut y penser, la vertu de tempérance, vous savez. On acquiert la vertu de tempérance. Ça s'acquiert. Alors ça s'acquiert en prenant la nourriture nécessaire. Il faut prendre la nourriture nécessaire. Très vite, c'était le vieux père Mandonné qui nous disait toujours cela. Nous devons, au bout de quelques années de vie religieuse, savoir un peu les forces que nous avons. Le capital de force que nous avons, et aussi les faiblesses, pour arriver à un équilibre de vie. C'est très important, ça. Un équilibre de vie, pour ne pas perdre trop de temps. Et ça, on peut y arriver, vous voyez, c'est là encore la prudence liée à la tempérance, un équilibre de vie. On sait qu'on a besoin de dormir peut-être un peu plus que les autres dans une période de fatigue. Mais il ne faut pas que la période de fatigue s'étende de trop. Alors, il y a des médecins, grâce à Dieu, la Providence nous a donné des médecins. On peut leur demander conseil en passant par le père maître, si on est novice, en passant par le prieur, si on est prophète. C'est bon d'objectiver, vous voyez, d'objectiver ce qui nous semble être nos besoins biologiques au point de vue de la nourriture et au point de vue du sommeil. Parce que je crois que plus on dort, plus on a envie de dormir, du moins, j'ai cette impression moi personnellement. Plus on dort, plus on a envie de dormir. Alors, il faut savoir qu'il y a une prudence, notre santé. Nous l'avons offert à Dieu. Donc vous n'avez pas le droit d'en faire n'importe quoi. Votre santé, elle est offerte à Dieu. Elle est donnée à Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Si vous apparteniez, vous auriez le droit d'être stylite. Vous auriez le droit. On verrait combien de temps ça dure. Mais vous auriez le droit. Vous auriez le droit de faire des performances énormes au point de vue nourriture. Et on va voir comment ça va tenir. Vous auriez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. Vous devez, au point de vue du sommeil, comme au point de vue de la nourriture, être dans une objectivité de prudence. Au bout d'un certain temps, c'est à peu près les forces qu'on a. Alors, bon, à certains moments, on doit donner plus, on le fait. Puis dès qu'on peut, on reprend un tout petit peu. On le sait, on doit avoir cette auto-lucidité. Ça aide beaucoup nos supérieurs, du reste. Et ça fait la coopération. Et à ce moment-là, c'est très simple, l'obéissance dans ce domaine-là. On demande, du reste, les permissions qu'il faut. On demande. Et on essaie, dans la mesure où on le peut, surtout pour le lever du matin. Je crois que pour le lever du matin, on doit tous faire un effort. Parce que quelquefois, on voit de gros trous. Hein? Alors, on se dit, tiens, c'est pas très bien s'il faudrait afficher toutes les permissions. Non, on fait confiance. Heureusement qu'on fait confiance. Et on fait une confiance totale que tous ceux qui ne sont pas là ont des permissions. Mais quelquefois, on se demande un tout petit peu s'il n'y en a pas quelques-uns qui se sont réendormis ou ne se sont pas endormis, ne se sont pas réveillés du tout. Je crois qu'on doit faire un petit effort. On doit essayer, dans la mesure du possible, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Hein. Et quand je dis ça, je ne veux pas du tout faire qu'il n'y ait plus d'exceptions. Il y a des exceptions que les médecins demandent. Et quand il s'agit du lever, quand il s'agit de la nourriture, je crois qu'il est toujours bon de passer par le point de vue d'un médecin, qui est la prudence au point de vue de la santé. Et nous, il dit, pour ne pas trop se dorloter, ou ne pas, au contraire, trop en prendre sur soi, parce qu'après, les autres en prennent les conséquences. Alors, il faut pouvoir arriver à une espèce de tempérance dans notre vie, de prudence, il y a la tempérance. Ça fait partie de la formation, vous savez, de garder autant qu'on le peut un corps sain. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir mener notre vie religieuse et pour notre vie apostolique. Nous sommes responsables en face de Dieu de notre santé. Nous sommes responsables en face de Dieu de l'équilibre de notre vie. Alors, les premières années, c'est fatal, hein, c'est impossible autrement. Il y a des trucs comme ça, on ne sait pas très bien, parce qu'on ne sait pas d'avance, que voulez-vous. On a une petite expérience antérieure, et puis l'expérience qu'on a antérieure, c'est souvent pas grand-chose au point de vue de la prudence. Alors, c'est forcé qu'au début, on ne sait pas exactement. Alors, on doit pouvoir le savoir, parce que c'est très variable. La nécessité de sommeil est très variable. Ça, c'est bien évident. Et la nourriture aussi. Donc la formation consiste à être lucide dans ce domaine-là, au point de vue de la tempérance. Et il faut, au point de vue de la tempérance, pouvoir avoir cette lucidité. Il faut une formation de la force, de la tempérance et de la prudence au niveau aussi de notre affectivité. Être lucide à l'égard de son affectivité. J'en ai parlé ce matin, je n'en parlerai plus beaucoup maintenant. Mais ça fait partie de la formation. Vous voyez, c'est ce point de vue-là qui est nécessaire. N'ayons pas une affectivité de jeune de 15 ans. C'est charmant quand c'est à 15 ans. Mais quand c'est à 25 ans, c'est très ennuyeux. Alors, n'ayons pas cette affectivité, vous voyez, très gentille, merveilleuse, avec des petites violettes et puis des petites fleurs. C'est merveilleux, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Il faut avoir une affectivité virile. Sainte Thérèse disait à ses carmélites qu'elle voulait qu'elles soient des femmes barbues. Alors ne vous l'oubliez pas, ça. Sainte Thérèse le demandait. Alors Sainte Thérèse demanderait, je crois, à tous ceux qu'elle aime et qui sont ses enfants, pour leur raison, d'avoir une force. Notre force est dans l'amour. Donc notre force est dans l'affectivité. Mais c'est en même temps une terrible fragilité. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir aussi mesurer notre affectivité. Ce qui est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mesurer son appétit, ça va à peu près. Mais son affectivité, c'est extrêmement difficile. Et son affectivité dans tous les domaines, vous voyez, jusqu'aux instincts. Ça fait partie de la formation de comprendre qu'il y a en nous des instincts qui, quelquefois, si on ne faisait pas grande attention, arriveraient à nous dominer complètement. Et alors la bête sauvage reviendrait en nous. Et ça revient vite. C'est extraordinaire. Alors il faut qu'on fasse attention à la formation par les vertus de force, de tempérance. Et la vertu de justice. Là aussi, la vertu de justice. Vous voyez, il y a quelquefois un laisser-aller terrible dans la vie religieuse à propos de la vertu de justice. Parce que voulez-vous, vous ne gagnez pas votre vie. Et vous vivez de dons. C'est magnifique, c'est évangélique. Mais on doit être alors très attentif à vivre comme des pauvres. Et la justice doit nous aider à vivre comme des pauvres, comme des mendiants. Vous comprenez, il y a un chiffre global de la communauté. Point de vue nourriture, point de vue dépenses du téléphone, point de vue dépenses des automobiles. Il y a un chiffre global. Alors, on ne va pas faire une proportion. Mais on se demande si de temps en temps, il ne faudrait pas faire un petit peu la proportion tant de dépenses au téléphone. Alors, on regarderait proportionnellement, puis on verrait, tiens, toujours les mêmes. Alors, je crois qu'il faut être des pauvres. Je sais très bien que l'habitude du téléphone est très variée et très variable chez les uns et chez les autres. Ça, c'est sûr. Moi, je suis encore du vieil âge où le téléphone servait rarement quand on ne pouvait pas faire autrement. Je sais très bien que les lettres vont très mal maintenant, alors il y a toujours d'excellentes excuses où il faut à tout prix téléphoner. Mais quand on téléphone brièvement en disant « l'être suit ». Et c'est simplement pour avertir quelque chose d'indispensable. Ça coûte beaucoup moins cher. Vous savez bien, nos chers Saint-Joseph nous l'ont demandé. Alors, ils ne se scandalisent pas parce qu'ils nous aiment beaucoup, mais facilement, ils diraient quand même, c'est pas normal. Ce chiffre effrayant de téléphone, ce chiffre effrayant au point de vue des courses en auto, pour un oui, un non. Je comprends très bien, il faut accueillir avec beaucoup d'amabilité et de gentillesse nos hôtes. Mais quand même, nous sommes des pauvres. Alors si vous devez faire chauffeur de taxi toute la journée sans que personne ne paie rien, pour chauffeur de taxi, hein, d'abord vous-même, et puis la voiture, et puis l'essence. Alors vous voyez, ça fait quand même... Je crois qu'il faut tenir compte un peu de tout cela. Vous voyez, sans tomber, alors c'est la très grande difficulté. Je sais très bien que ce n'est pas commode et ça s'acquiert avec le temps. Et c'est normal qu'on a viciat, que dans les premières années de sa vie religieuse, on fasse de grosses gaffes. Ça, c'est bien évident. Parce qu'on ne sait pas encore, au point de vue prudentiel, et au point de vue pauvreté, l'acclimatation. Mais on doit être attentif. Et si on fait des remarques en disant, voyez, hein, téléphone, on doit à la fois suivante être attentif. Et puis on doit demander pardon, ou au permettre, ou au prieur. On demander pardon. Parce qu'on a commis quand même une faute contre la pauvreté. On ne l'a pas fait volontairement, donc elle n'est pas morale. Mais elle existe quand même. Et si on continue notre foi, c'est mauvais. On n'a pas le droit de continuer une seconde fois. Mais c'est là où il y a une espèce d'attention. C'est exactement comme pour les outils, puisqu'on est sur le terrain, enfin, sur les outils. Les outils ne nous appartiennent pas, c'est au bien commun. Les casseroles ne nous appartiennent pas, c'est au bien commun. Le feu ne nous appartient pas, il est au bien commun, c'est sûr. Alors on doit être attentif à ça. Attentif à vivre en pauvre. C'est pas si commode que ça de vivre en pauvre. Hein? Parce qu'il y a des quantités de personnes qui actuellement vivent plus pauvrement que nous. Ça, c'est sûr. Et même peut-être de nos proches et de nos parents qui ont fait de gros sacrifices pour nous et qui vivent plus pauvrement que nous. Alors, c'est quand même gênant, tendant vers la pauvreté, de vivre avec une certaine aisance et surtout en dépensant très facilement. Je crois qu'on doit être attentif à ça. Il faut de temps en temps, voyez, de temps en temps faire une petite révision là-dessus. Est-ce que je vis suffisamment pauvre? Vous voyez, par rapport à la nourriture, là, je crois qu'il faut obéir au médecin. Donc, ne faites pas par vous-même des restrictions qui risqueraient d'abîmer votre santé. Par rapport au sommeil, demander au médecin, toujours par l'intermédiaire du père maître et du... C'est bon d'objectiver du père maître et du prieur. Mais quand il s'agit de la pauvreté, il n'y a plus de médecin. Quand il s'agit du téléphone, quand il s'agit de l'usage des outils, quand il s'agit de l'usage des autos, quand il s'agit... Il n'y a pas de choses comme ça. Alors évidemment, on a une excellente excuse, les autos sont vieilles, alors si on la casse, ou pas grand-chose, après tout, elle serait usée d'elle-même. Ça fait rien. Ça fait rien. On doit tenir compte de tout, et on doit être attentif à ça. Mais ça, ça fait partie de la formation. Formation religieuse. On est attentif, on est lucide vis-à-vis de tout ce que ça représente, l'exercice prudentiel de la vertu de force, de la vertu de tempérance, de ce que représente le capital de santé que Dieu nous a donné. Que ça représente pour nous nos forces de travail et les dépenses que nous faisons. Alors faites un petit examen de conscience à l'occasion de la lettre du Père Abbé, puisque ça nous demande d'être lu deux fois par an. Alors, faites un petit examen de conscience, c'était pour ça. Et j'insiste sur le point de vue de la formation, parce que je crois que c'est quand même cela que nous devons tous faire ensemble. Nous devons nous aider les uns les autres dans ce domaine-là. Et nous devons essayer par tous les moyens d'être le plus vrai possible par rapport aux exigences de Dieu sur nous, par rapport aux exigences du Christ et de Marie. Et vous savez que les hommes du monde qui nous entourent, qu'il s'agisse de ceux qui vivent très pauvrement ou de ceux qui vivent avec opulence, on regarde toujours la manière dont un religieux se conduit. Toujours. La manière dont il mange. Parce que quand on est invité, c'est toujours très dangereux, parce que vous êtes sûr que tout le monde le regarde là. Bon, c'est la manière dont un religieux mange. Ça scandalise si on mange d'une manière qui ne soit pas religieuse. La manière dont il parle. Est-ce qu'il exerce la charité en parlant de ses frères? Est-ce qu'il exerce la charité en parlant de sa communauté? On n'a pas le droit de parler mal de sa communauté. Non, c'est très vrai. On n'a pas le droit de dire certaines choses qu'on a vues. Non, ça fait partie de la charité fraternelle. On doit s'aimer mutuellement. Et on doit donc préserver cela. Et puis quand on est... invité chez quelqu'un, ne doit pas utiliser tout ce qu'on voit en disant « c'est à moi, puisque moi j'ai fait votre pauvreté ». Et c'est tout à fait, je vois très bien que vous en avez deux, donc je peux en prendre un, c'est évident. N'est-ce pas ? On regarde des choses, ça se passe ces choses-là, j'invente pas, j'ai des échos. Croyez bien que de temps en temps on a des échos, je ne cherche pas à savoir c'est qui du reste, jamais, parce que je ne veux pas faire d'enquête de cette manière-là. Mais de temps en temps on vous dit ça. Alors on dit, ils sont charmants, ces frères, ils sont charmants, ils sont d'une simplicité, vous voyez, ils agissent avec... Ils sont d'une simplicité telle qu'ils considèrent que tout ce qui nous appartient leur appartient. Mais ça, c'est... Donc il y a tous ces petits points sur lesquels, je crois, ça fait partie de la formation religieuse. Vous voyez, c'est pas du formalisme. Si tout ça est ordonné à l'amour, si tout ça est ordonné à l'amour, les vertus risquent, la recherche des vertus risque de devenir du formalisme. Ce serait du stoïcisme. On cherchait la vertu pour la vertu. Être le moine parfait, le religieux parfait, au point de vue de la tempérance, merveille. Au point de vue de la force, étonnant. Au point de vue de la prudence, extraordinaire. On est... Non, c'est pas ça. On ne cherche pas à être vertueux pour être vertueux. C'est passé d'âge et de mode. Bon, je ne cherche pas à avaler un parapluie pour être absolument d'une intégrité absolue. J'ai bien montré que la perfection est ordonnée à la bonté. Alors on doit être bon, et pas du tout de cette question de vertu pour la vertu. Mais c'est nécessaire pour pouvoir aimer vraiment. C'est nécessaire pour l'exercice parfait de la charité fraternelle. Autrement, on blessera sans le savoir. Autrement, on marchera sur les pieds de quelqu'un sans le savoir. Le soir, on rentrera à des heures impossibles en faisant beaucoup de bruit. La discrétion. Dès que les complices sont terminés, la conférence du soir est terminée, le silence absolu. Et puis si on rentre un peu tard, après avoir prié ou avoir travaillé pour une raison ou pour une autre, rentrons avec le plus grand silence. Je me souviens, nous, on enlevait notre temps, quand on arrivait comme ça, c'était la coutume, on enlevait ses souliers et on marchait pieds nus ou à pied sur nos bas. Pour Pau, c'était automatique, on ne traversait jamais un corridor, le soir, je parle, quand on arrivait après les deux. Parce que ce n'est pas... Pendant la journée, c'est différent, mais même pendant la journée, quand on sait qu'il y a des gens qui travaillent, alors je ne vous demande pas d'enlever vos souliers, mais il faut le faire spirituellement. Mystiche, n'est-ce pas ? Alors il s'agit de le faire au point de vue de son intention et de faire, on est attentif à ne pas faire de bruit, ne pas claquer les portes, ne pas aller trois fois, on rentre la claque, on retourne au WC, on va au WC. Puis alors, celui qui est dans le lit, qui dit une fois, deux fois, trois fois, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est impossible. Alors, comme c'est dans le noir, ça augmente, vous savez, c'est. C'est comme quand le dentiste vous enfonce un truc, vous dites, mais quoi, c'est pas si profond, c'est que ça... Et ça, c'est les profondeurs de la nuit, vous voyez. Et les bruits de la nuit, c'est comme ça, ça prend dur. Alors, il faut faire attention à ça, c'est la discrétion. C'est lié à toutes ces petites vertus qui font que la vie commune devient légère. Alors, vous êtes d'autant plus attentifs quand on est nombreux.
Thank you.
Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde jamais.